Incroyable, mais vrai, lorsqu'il s'agit du troisième bateau, il y a des personnes qui utilisent le sachet à la place du préservatif. Ce n'est pas une imagination, mais c'est une réalité qui a été constatée à Kisantu, mais aussi quelque part à Kinshasa. L'affaire de sachet à la place du préservatif se passe précisément dans la cité de Kintan. Que passe-t-il dans le monde, pourrait-on s'interroger. Julie-Laure Mbalivoto s'est rendue dans la cité et nous a ramené des précieuses informations, mais d'abord, c'est quelques témoignages.
Mais bien, si on a pas protéger malade, on a utilisé ma châssis. On battre la malade, mais on a utilisé la prudence. C'est comment on a été dans le sol, mais on a monté. Il y a quelqu'un qui m'a tâté. Alors, on a tellement la prudence et la nanoté. C'est parce que moi aussi, j'ai eu la prudence et la nanoté, parce qu'on a châssis.
Andimi.
Andimi. Allez, parce qu'il a été.
Na ekumi na ngati me na yoka ke ba kuma utiliser ba chasser bon tellement na ekumi na ngati kumi la masala ngai en tout cas bon ya le ba kaka ke ezala ba air mot tardif bon azara la mobali na e fait ba passer na rapport mais tellement ba tele ba pharmacie ezala ki okangama mobali le bitete ke ka la chasser po ekoma la ngwe moi ça se lève moi ma tête à le bitete je sais pas les karala ngoti. Moi, c'est pas dit, moi qui bon. À la tête qui a chassé, à quand qui on se va marquer, nini, des carabons, on va y aller,
Voilà les témoignages. De toutes les personnes interrogées, aucune n'a pu dire si elle était directement concernée par cette pratique. Mais les témoignages que vous venez d'entendre laissent croire que c'est une situation réelle dans la cité de Kintanou. Non, l'un des qui sont tout, évidemment. Jolie Balivoto, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, il faut reconnaître que beaucoup de gens se sont confiés à vous hors micro, mais que dès que vous sortiez l'armure journalistique, les bouches se refermaient, les langues étaient moins pendues que s'il n'y avait pas de micro. Alors, dites-nous, Jolie, le problème est-il périodique dans cette partie du pays où il a toujours existé?
Oui, d'après les gens que je rencontrais à Kitano, on ne peut pas dire que c'est un problème fréquent, périodique. Disons que c'est un problème permanent. Selon les témoignages recueillis sur place, certaines personnes utilisent des sachets à la place du préservatif lorsqu'ils sont dans le besoin. Alors pour eux, le sachet, c'est juste un moyen de se protéger contre le sida. Je vous propose d'ailleurs de suivre tour à tour le chef du service de santé de la police nationale et le vice-président de l'ASECO.
Effectivement, c'est vrai parce que on a une base population la biseau actuellement basé au banc avant bah qui que sida est allé. Alors tant aux populations militaires surtout policières et qui agent policier agent besoin de se satisfaire un besoin sexuel et que tant on a à conscience les autres collègues que non malade déjà sur le terrain ils ont sida attend à bangui mais donc on a déjà l'impression on a assalé la yango. Akolukaka gawo eloko o ya moni pembeni wana azu yango alati loko na ndenge ba osala ba chasse wana azu chasse na ya alati et puis aza siko ko sala ba ba besoin na et non 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 ezaka ba publicité eza population civile centre na biso eza centre de centre de référence de la police nationale congolaise alors tozo référé na ba kanyoso civil militaire et policière
cette situation est dit. Il y a manque de préservatifs, en tout cas ici. Et souvent, il y a certains services qui passent pour la distribution. Et les chauffeurs ou les utilisateurs, quand ils voient qu'on distribue ça gratuitement, pour acheter, ils ont des difficultés. Bien que c'est moins cher, mais ils trouvent que, ils préfèrent qu'on les distribue ça gratuitement.
Ben voilà, personnel médical viennent de confirmer cela aussi. Donc, on peut prendre la mesure, l'ampleur du problème. Mais la question qui se pose actuellement, Jolie Malivoto, c'est pourquoi est-ce que c'est ce phénomène de l'utilisation du sachet, à la place du préservatif qui est fait de latex, ce qui est différent, a-t-il pris de l'importance dans cette cité du Bas-Congo? Par quoi est-elle influencée?
Oui, selon le vice-président de la SECO, cette situation est due tout d'abord au manque de communication de culture. Ensuite, elle est due aux différentes fréquentations étrangères dans cette cité. Il faut savoir, Walter, que Kisantu est en quelque sorte un carrefour. Dans cette ville regorge beaucoup de jeunes gens qui viennent
c'est
de partout.
Touristique.
Oui, c'est un peu touristique. Ah,
avec
à
le
travers,
jardin botanique.
Oui, le jardin botanique. Les gens viennent de, à travers tout le pays, de l'étranger même, des chauffeurs, des voyageurs, des étudiants, même des touristes. Donc, ça permet aussi qu'il y ait échange du SIDA.
Des gens qui viennent du Bas-Congo, qui prennent un break, qui s'entourent parce que c'est une ville bien. Ceux qui descendent, ainsi de suite, un carrefour de personnes. Par rapport au SIDA, parce qu'on en parle, est-ce qu'il n'y a pas des ONG qui œuvrent dans la sensibilisation de la population contre les VIH, le SIDA et les infections sexuellement transmissibles? Parce qu'on voit des calicots, des publicités sur les médias. Au niveau de Kisantu, est-ce que vous en avez rencontré?
Oui, j'ai rencontré par exemple la Croix-Rouge, la police nationale et le relais communautaire de la zone de santé de Kisantu qui sensibilisent la population. La Croix-Rouge par exemple dit par exemple au chauffeur qu'au lieu d'acheter une bouteille de bière à 350 francs, ils peuvent acheter un paquet de préservatifs de condoms qui ne vaut que 15 ou 20 francs seulement. Alors
un paquet de 3.
Ouais, un paquet de 3.
Oui.
La marque Prudence,
Prudence.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ils sensibilisent un peu la population, les chauffeurs dans la lutte contre le SIDA, les dangers que représente le SIDA et les avantages du préservatif. Alors, quant à la police nationale, elle cesse de dire à ses éléments de s'abstenir, d'opter pour la fidélité et le préservatif. Le relais communautaire, pour sa part, il sert de pont entre la population et les zones de santé de Kisantu. Il passe dans chaque quartier, sensibiliser les gens sur l'utilisation correcte du préservatif et distribuer même des condoms. Je vous propose de suivre les explications de Maman Vava, elle est du relais communautaire.
Notre travail, c'est sensibiliser la population en matière de la santé et faire ramener la population ou la communauté de changer le comportement. C'est-à-dire informer la population et amener les services à la population pour qu'ils puissent comprendre comment il faut amener leur santé. Nous sommes là à sensibiliser la population pour l'utilisation correcte des condoms. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment utiliser les condoms pour se préserver aux maladies ou bien à la naissance pour avoir des naissances désirables, c'est-à-dire pour ne pas être atteint des maladies infections sexuellement transmissibles ou de la VIH-SIDA. Jusqu'à maintenant, on a une grande partie de la population qui comprenne surtout sur les problèmes des microbes de VIH-SIDA, mais nous avons des difficultés parfois de convaincre certaines populations qui n'aiment pas utiliser les préservatifs. Ils aiment souvent être en contact, c'est-à-dire face à face avec les corps utilisés pour les relations sexuelles.
Voilà, Madame Vava, du relais communautaire au niveau de Kisantu, relais communautaire, par rapport évidemment à la sensibilisation et à la lutte contre le VIH-SIDA et les maladies, les infections sexuellement transmissibles. Je reviens à vous, Jolie Malivoto, si les habitants de la cité de Kintanu utilisent des sachets, disons quelques habitants, hein. Parce que quand on dit les habitants, c'est comme si c'était tout le monde. Si quelques-uns utilisent des sachets à la place des condoms, est-ce que cela veut-il dire qu'il n'y a pas suffisamment de préservatifs dans cette cité et à la ronde?
Non, cela ne veut pas dire qu'il y a pénurie du préservatif dans la cité de Kitanu. Parce que j'ai circulé dans presque toutes les pharmacies de la place et j'ai vu de mes propres yeux, Alter, des condoms de la marque Prudence qui se vendent dans des pharmacies.
À quel prix est-ce que...
15 ou 20 francs par exemple.
Le petit carton de 3. Voilà. Donc, est-ce que vous avez peut-être posé éventuellement la question à un responsable d'une officine sur la fréquence avec laquelle les clients viennent ou pas acheter le préservatif?
Oui, à ce sujet, je vous propose de suivre un pharmacien de la place.
Bon, en tout cas, c'est impossible presque qu'on passe dans la pharmacie, non, sur le préservatif et Zali.
C'est quoi, mon côté à combien?
Bon, non, mon côté à 15 francs.
Est-ce que vous avez un client qui a été sombi vraiment? Il y a une quantité qui a été belle.
En tout cas, surtout les villageois qui sont belles, qui sont mingi. Et puis, les passagers, parce que tu sens tout, ils ont des milliers de bat bazo uta de part et d'autre et batelema mingi, surtout tant barrage et salama à chaque 18h. Ko utiliser sachet, en tout cas, zay hygiénique, tiens, hein, parce que sachet yo ko utiliser. Ou yo bi an ute sugi za modalité ndeni ko contenir ba microbe belepe sachet.
Voilà, un pharmacien qui s'entoure, qui a donné ses précisions. Nous en aurons davantage tout à l'heure avec Dr Bosiki qui est déjà dans les installations de Radio Okapi. On va le recevoir dans quelques minutes. Avec lui, on parlera éventuellement des dangers que les personnes qui recourent au sachet à lieu place du préservatif fait de latex courent en s'exposant au VIH-Sida ou aux infections sexuellement transmissibles. Évidemment, on va passer en revue d'autres questions de l'heure liées au sida. Des réactions, des suggestions, ces questions vous concernent. Appelez, participez au magazine Okapi Action. Okapi.
Okapi Action 081 89 0 68 90. Okapi.
Nous attendons vos appels. Arlette Mbouyi est au standard. Elle veille au grain. Jolie Mbalivoto, merci beaucoup de nous avoir amenés dans cette partie du pays. Prochainement, ça sera jeudi. Qu'est-ce que vous nous proposerez comme matériel, réalité inhérente à Kisantu?
On va parler du jardin botanique de Kisantu. Le faire jardin en quelque sorte la carte postale.
Oui, c'est un jardin magnifique.
Disons.
Ben, voilà. Les auditeurs, prenez rendez-vous avec Jolie pour jeudi. Elle vous parlera. Nous vous parlerons, nous vous ferons découvrir. On vous dessinera une petite carte postale du jardin botanique. J'imagine que s'il y avait la neige qui tombait sur ce jardin et qu'on y mettait des lumières, on se croirait au chez paradis. Le Père Noël. Au paradis. Ouais. À bientôt, Jolie.
À bientôt.
Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous maintenant, rappelons que la lutte contre le sida est un combat de tous les jours. Il faut se prévenir. Les spécialistes recommandent trois modes de prévention. C'est comme si vous attachiez trois barges sur un pousseur sur le fleuve. D'abord l'abstinence, ensuite la fidélité et enfin le préservatif. Incroyable mais vrai. En ce qui concerne la troisième barge, le préservatif, l'usage du préservatif, il est des personnes qui utilisent le sachet à la place du préservatif. Ça se passe à Kisantu. Jolie Mbalivoto qui s'est rendu sur place, s'est rendu compte de la situation. On a entendu des médecins qui l'ont confirmé. Et pour commenter ce sujet, nous recevons Dr Bosiki en studio. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Si vous pouvez vous rapprocher du micro, ça fait plaisir de vous retrouver avant la fin de cette année parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était un peu plus tôt au courant de l'année. Dites-nous, docteur, je vous pose la première question qui est celle d'un auditeur qui veut nous appeler de Badoulité. Est-il permis d'utiliser le sachet à la place du préservatif?
Bien, avant de répondre à la question, j'aimerais revenir sur deux points. Le premier, c'est le trois bateaux que vous avez évoqué tout à l'heure.
Oui.
Vous avez parlé de l'abstinence, fidélité et préservatif. Oui. J'ajouterai un quatrième élément, c'est-à-dire le pont qui relie les tout, c'est-à-dire l'information. Okay. Il faut s'informer. Il faut s'informer, c'est capital pour bien utiliser, pour faire le choix entre ces trois bateaux.
C'est déjà ce qu'on est en train de faire.
C'est ça justement.
Oui.
Alors le deuxième point que j'aimerais encore insister, c'est que c'est vrai que les gens utilisent les sachets à la place de préservatifs.
Vous le confirmez aussi?
Je prends un petit point positif là-dessus, c'est qu'il y a une prise de conscience du risque du sida.
Oui.
C'est pour cela que les gens utilisent le sachet. Alors, c'est mauvais d'utiliser le sachet. Et ça, je réponds maintenant
à la
question. Il n'est pas conseillé d'utiliser le sachet puisque ce n'est pas un matériel adapté. Il n'offre pas du tout la sécurité voulue, la protection voulue contre le virus du sida. Parce que la fabrication, la matière avec laquelle on a fabriqué le sachet, et même les conditions dans lesquelles le sachet se trouve quand on l'utilise, n'est pas appropriée pour pouvoir assurer une bonne protection contre l'infection et même contre les autres microbes aussi.
Vous avez parlé de la matière qu'on utilise pour fabriquer le sachet ou le préservatif. Quelle est la particularité du préservatif? Quelles sont ses conditions physiques?
Le préservatif masculin est fabriqué avec du caoutchouc. Mm-hmm. Le caoutchouc, donc, c'est à partir de la culture des VA, hein, on utilise le caoutchouc pour pouvoir fabriquer le préservatif. Le préservatif féminin, il est fabriqué à partir d'un produit synthétique qu'on appelle polyuréthane. Mm-hmm. Donc, ce sont des produits qui sont très résistibles et qui n'ont pas suffisamment de pores pour laisser passer le virus du sida, puisque mm-hmm. le virus, il est tellement fine, on ne sait même pas voir ça à l'œil nu. Et si vous utilisez un matériel qui n'est pas approprié, qui a beaucoup d'ouverture, à ce moment-là, le microbe peut facilement passer.
Ben voilà, donc ce sont là les premières réponses. Et puis Jean-Marie Ndita de Mbujimaï, voici sa question. Qui a dit qu'il fallait utiliser le sachet à la place du préservatif? La campagne de la lutte contre le sida va bon train. On ne peut pas tolérer ça. Vous devez, vous, médecin, chargé de cette campagne, sensibiliser davantage la population. Fin de citation. Voilà l'interpellation de M. Jean-Marie Ndita de Mbujimaï.
Oui, effectivement, on ne doit pas à l'heure actuelle utiliser le préservatif, les sachets plutôt. Je me souviens quand nous avons commencé la promotion de préservatifs, c'était en 1987. La première année, on avait distribué près de 500 à 600 préservatifs seulement dans la ville de Kinshasa. Mm-hmm. Et la deuxième année, nous sommes passés tout de suite à près de 3 millions de préservatifs. Et actuellement, il y a suffisamment de préservatifs dans les pays pour que on puisse pas se permettre d'utiliser n'importe quoi et surtout pas le sachet qui d'abord contient des microbes puisque ce n'est pas stérile. Il n'est pas adapté, donc il va provoquer des lésions chez la femme. Il y a beaucoup plus de conséquences en utilisant les
le sachet à la place de préservatifs.
Donc le problème qui se pose là, c'est, si j'ai compris toutes les interventions qui ont eu lieu au cours de cette émission, il y a un problème de disponibilité des préservatifs au moment voulu.
Au moment opportun.
Il est 23 heures, il est minuit. L'envie me prend. Je me trouve dans un endroit où il n'y a pas de préservatif. C'est ça le problème. Où, à cette heure-là, où est-ce que je dois trouver le préservatif? Mm-hmm. Nous avons été dans d'autres pays, nous avons vu que au Cameroun, par exemple, on a essayé de vulgariser, donc de rendre vraiment disponible, accessible le préservatif à n'importe quelle heure. Ça veut dire que même les petits vendeurs qui sont dans des ligablots vendent les préservatifs. Donc les préservatifs ne doivent pas se retrouver seulement au niveau
des officines,
au niveau des centres de santé. On doit les retrouver même chez les détenteurs des ligablots, chez le coiffeur, n'importe où, et surtout pour l'usage nocturne, on doit chercher les gens qui vendent tard la nuit et on met à leur disposition les préservatifs, d'autant plus que la distribution, la vente ne demande pas beaucoup de compétences pour cela, donc il suffit tout simplement de prévenir ces personnes-là que vous ne devez pas exposer les préservatifs au soleil pour qu'ils ne puissent pas être abîmés. Mmh. Il ne faut pas les laisser sous la pluie. Mmh. Hein, donc des mesures très simples à prendre, mais que les préservatifs soient disponibles même chez les mamans qui vendent la nuit assez tard.
Les mamans qui vendent les NZT, les
par exemple, ceux qui vendent de cigarettes et tout ça, mais ils ne doivent pas exposer ça au soleil.
Voilà. Le 1er décembre cette année, c'était
Chaque année d'ailleurs, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est une journée particulière au courant de l'année, alors que c'est une question de tous les jours, évidemment. Et dans un reportage de Bounia, nous avions appris qu'il n'y avait pas suffisamment, qu'il n'y avait presque pas de préservatifs à Bounia. Nos reporters se sont même promenés dans des officiers, ils n'en ont pas vu. Et il y a une question qui arrive de Bounia. C'est M. Anakoule qui la pose. Le problème est que à Bounia, nous sommes à côté de l'Ouganda. N'est-ce pas très dangereux pour nous, puisque nous sommes d'une certaine façon exposés. N'y a-t-il pas moyen de nous envoyer des préservatifs venant d'aller de la capitale vers Bounia? Docteur, on avait fait un reportage, nos reporters se sont rendus dans les officines, il n'y avait pas assez de, il n'y avait presque pas de préservatifs.
Vous avez raison de le dire. Je commence par la journée mondiale SIDA. La journée mondiale SIDA n'est pas une journée où ces jours-là, on doit mettre l'accent sur la sensibilisation. C'est la journée où on fait les bilans de ce qui a été fait tout au long de l'année. Donc, depuis 1986, l'ONU SIDA a instauré la campagne mondiale SIDA. Donc, nous devons commencer la campagne au mois de décembre, au mois de janvier et au mois de décembre, on fait les bilans de ce qui a été fait tout au long de l'année. Donc, on ne doit pas seulement attendre le 1er décembre pour bouger, pour faire quelque chose. Ça n'aura aucun impact. Bien. Bounia est parmi les milieux ruraux qui, où on déplore ce manque de services, non seulement aux préservatifs, mais aussi à d'autres services liés à la prévention ou à la lutte contre le sida. C'est vrai. Et effectivement, il faudrait qu'au niveau du programme national, qu'on puisse multiplier les efforts pour que partout y ait disponibilité des préservatifs. Actuellement, il y a une seule agence ou ONG qui s'occupe de la distribution des préservatifs. À côté de cela, vous avez...
C'est laquelle, cette agence, on peut dire ici?
L'ASF, hein, l'ASF,
Association de santé familiale,
Justement, qui s'occupe de cela pour le moment à l'RDC. Il y a à côté de cela le service de sens désirable, notamment avec ABF, qui fait aussi la promotion des préservatifs, plus dans le cadre du planning familial, mais ils associent aussi la lutte contre le sida. Il y a le programme de santé de la reproduction. Donc, nous devons nous mettre tous ensemble pour que nous puissions arriver à couvrir largement le pays. N'oubliez pas que la RDC, c'est vraiment continent. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse associer les autres partenaires, notamment les commerçants, les ONG,
les camionneurs.
Donc, ceux qui viennent, par exemple, acheter la marchandise ici à Kinshasa, ils achètent le sel ou les habits ou quoi, qu'ils achètent aussi le préservatif pour pouvoir amener dans les coins où ils vivent.
Qu'est-ce que les gens de Bounia peuvent attendre, les gens dans les milieux ruraux? Alors, parce qu'on a l'impression que ces campagnes s'arrêtent dans les villes pour la visibilité, on oublie les villages,
les cités. Maintenant l'accent est en train d'être fait avec le nouveau programme national multisectoriel qui est en train de se mettre en place. Vous avez suivi que le 1er décembre, on avait lancé... c'était la sortie officielle de ces programmes, évidemment. Donc là, l'accent est mis sur la multisectorialité, l'accent est mis sur les milieux ruraux. Il faut que les services liés à la prévention et à la prise en charge du sida arrivent au niveau le plus reculé que possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les programmes. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, en sortant d'ici, Bounia sera
ravitaillé.
Non, mais c'est pris dans un programme commun. Il y a eu suffisamment des appuis qui sont en train d'être arrivés. Il y a l'intervention de la Banque mondiale, il y a l'intervention de Fonds mondial SIDA, tuberculose et malaria. Il y a les autres partenaires aussi, le PNUD, l'OMS et tout ça, FINEAP aussi. Donc, bientôt on sera arrivé, on va pouvoir couvrir, surtout en ce qui concerne le préservatif. Il est prévu que toutes les zones de santé soient ravitaillées en préservatif.
Bien, on n'a plus beaucoup de temps. En peut-être 30 secondes, docteur, une question de Kananga, de José. Quand le préservatif se déchire ou reste à l'intérieur du corps de la femme, quelles sont les conséquences?
Il y a le conséquence tout simplement, c'est que vous n'avez pas assuré la protection à ce moment-là, puisque les spermes se déversent dans la cavité vaginale de la femme et que l'homme aussi entre en contact avec les sécrétions de la femme. Mais sinon, pour retirer ça, la femme met les doigts, elle retire ça sans problème. Ici, il ne faut pas utiliser deux préservatifs, il faut utiliser un seul préservatif et suffisamment lubrifier la femme avant les rapports sexuels.
D'accord. Et puis la dernière question, en 40 secondes, si vous pouvez y répondre. Monsieur Boyombo qui pose une question de Kinshasa. Il nous appelait de Kinshasa tout à l'heure. Où en êtes-vous avec les études faites en Kinshasa sur l'utilisation des sachets à la place du préservatif?
Je crois que là, on a suffisamment multiplié les points de vente, de distribution des préservatifs ici à Kinshasa. L'effort doit être fait au niveau des associations pour qu'ils puissent sensibiliser la population, qu'ils sachent là où les préservatifs est disponible. Donc il faut qu'on affiche, qu'on voit clairement qu'à tel endroit, à n'importe quelle heure, on peut trouver le préservatif.
Vous avez dit impuissance sexuelle masculine, on en parle très couramment actuellement en Bandeka. C'est autour d'un verre. Dans les rues, dans les conversations, les sujets se faufilent pendant les causettes. Les hommes qui en parlent sont inquiets. Pourquoi cette insuffisance sexuelle? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment s'en sortir? C'est à autant de questions qu'on voudrait bien répondre et on en parle avec notre confrère. Henri Lobondo Bokelou. Henri Lobondo, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour amis auditeurs.
Alors, dites-nous, chers confrères, d'où est venue cette question aussi inquiétante que celle de impuissance ou faiblesse sexuelle masculine? Mais peut-être avant de nous dire la source de cette situation en Bandaka, pouvez-vous nous circonscrire la compréhension, la définition de faiblesse sexuelle?
Walter, une faiblesse sexuelle se définit comme une incapacité pour un homme de satisfaire sexuellement son partenaire comme il se devrait.
Mais alors, les personnes qui sont confrontées à ce problème au niveau de Mbandaka, vous nous l'avez dit, on en parle très souvent. Pourquoi est-ce qu'on en parle très souvent actuellement?
Dans la plupart des cas, nombreux sont ceux qui consomment des breuvages indigènes qu'ils achètent auprès des tradis praticiens. Bien sûr, ces hommes ne déclarent pas toujours leur situation à qui les entendre. Certains parlent des douleurs au dos, d'autres évoquent des cas d'hémorroïdes. Cependant, il y en a qui prennent leur courage à deux mains pour nommer leur mal par son nom.
Mais alors, Henri Lobondo, les modes de traitement de ces gens, c'est ce qu'on va entendre dans peut-être les avis que vous avez pu recueillir. Chers auditeurs, on vous propose d'écouter comment certaines personnes se soignent lorsqu'ils sont confrontés à ce problème de faiblesse sexuelle.
Par exemple, Ngaï Moko,
c'est presque partout dans la rue, ce sont des déclarations qui se font partout, même des jeunes garçons, dans les dames et partout, ils déclarent cette histoire. Et selon soi, l'insuffisance sexuelle.
Henri Lobondo, selon certaines informations, il paraît même que les praticiens de la médecine traditionnelle reçoivent aussi beaucoup de gens qui se plaignent de cette insuffisance.
Oh oui, Walter, de leur côté, les vendeurs des breuvages indigènes, entendez les tradis praticiens, affirment recevoir quotidiennement plusieurs hommes en consultation pour les faiblesses sexuelles. Bongombe Alphonse, un des tradis praticiens de la ville, explique comment il procède pour soigner ses patients.
Kokoki koti angona kati ya kafe na yo na bana o ya sika kwa koko koka bololo to mo bibi ya ndenge na kisiwana te kisilanga ezali kisilanga ya kotongola ezali na koki kwa pesa yo okay kotongola ediki se bongisi mtoto na yo misoko na ona makambo na ya sotukula okoi kobika kisilanga e koki ko sikola pe ti yo na yo mama uti yo na yo tata ma sika na yo ya kobota to sika na yo ya kosala ka biso mibali.
Voilà, on vient d'entendre Papa Bongombe Alphonse qui explique comment il traite les patients qui viennent lui soumettre les problèmes de faiblesse sexuelle. Henri Lobondo, il y a cette montée en puissance qui a été observée au niveau de Mbandaka en ce qui concerne la faiblesse sexuelle chez la plupart d'hommes. Ils en parlent beaucoup, c'est grâce à ça que vous avez appris aussi l'information. Mais est-ce qu'on sait pourquoi il y a cette montée en puissance?
D'abord, les personnes interrogées elles-mêmes n'arrivent pas à expliquer les causes de leur maladie. Je suis sûr que ça doit être une épidémie, nous confie l'un des concernés par cette situation. En fait, les avis sont partagés à ce sujet, Walter. Certains pensent que cette faiblesse sexuelle provient des lourds travaux exécutés par les hommes.
Mais pour moi, je dirais seulement que c'est dû à l'excès des travaux. Donc les hommes, les jeunes gens travaillent plus à la recherche des séries quotidiennes de leur maison. Et en plus de cela, une fois arrivé à la maison, il est déjà abattu. Et déficit alimentaire aussi qui généralise nos maisons, abattu à la maison devant sa femme. Il doit être maintenant un homme de monocou au lieu d'aller trop loin. C'est dans ce sens-là que je peux justifier.
Autant d'explications, mais cet autre aspect, Henri Lobondo, au-delà de l'affectation, si vous voulez, physiologique, il y a une affectation psychologique chez l'homme, parce que l'homme, dans sa virilité, qui en est fier, lorsqu'il se retrouve, si vous voulez, en diminution de cette puissance sexuelle qu'il a chez lui, il y a des problèmes, des conséquences au niveau psychologique, comportemental, Henri.
Walter, je dirais que les conséquences ne peuvent pas manquer. D'abord, l'homme perd une faculté humaine. Il se sent honteux et ridicule s'il ne parvient pas à satisfaire comme il se doit son partenaire. D'ailleurs, c'est ce que les femmes n'aiment pas comme nous le savons tous. Devant cette faiblesse sexuelle, l'homme va directement consulter les tradis praticiens. En effet, pour voir un médecin, il faut passer par les infirmiers et leur dévoiler votre secret. Il est vrai que les breuvages administrés par ces tradis praticiens semblent avoir des effets bénéfiques, mais selon le docteur Richard Diogolo, cela n'est qu'un semblant de guérison. Selon toujours ce dernier, Walter, ces breuvages ne sont que des stimulants qui n'ont même pas de dose et qui peuvent amener facilement l'homme à la mort. Et enfin, un couple dont un homme est sexuellement faible pousse la femme à l'infidélité.
On va peut-être finir par cette question. Quel pourrait être le remède pour soigner cette maladie, Henri?
Le vrai remède reste la prescription médicale après consultation par un médecin, Dr. Richard Djougoulo.
À plus de 50%, c'est d'origine psychique. Concrètement, c'est-à-dire que quelqu'un, peut-être, ça peut arriver une fois, il avait peut-être envie de bien fonctionner et pendant qu'il était avec son partenaire et qu'il arrive qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça peut faire aussi une rétention psychique et ce qui peut aussi entraîner un dysfonctionnement sexuel. Ça peut aussi s'expliquer peut-être par certaines contraintes de la vie que nous avons. Quelqu'un qui est beaucoup plus dépassé, surtout dans l'état actuel, il réfléchit beaucoup plus à autre chose. analyse, on fait la psychoanalyse pour essayer un peu de soigner certaines choses de cette façon-là. Et il y a aussi des causes organiques, c'est-à-dire qu'il y a des raisons réelles que l'homme ne puisse pas fonctionner très bien. Et dans ces deuxièmes cadres-là, c'est beaucoup plus les infections génitales. Et chez l'homme, ce qui est beaucoup plus incriminé, c'est la prostatite chronique.
Henri Lebrondo, peut-être une petite conclusion par rapport à cette montée en puissance de l'insuffisance sexuelle chez certains hommes et surtout cette habitude à recourir à l'automédication. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a ce problème?
Walter, les gens qui souffrent de cette maladie ne devront pas se contenter uniquement de la médecine traditionnelle. S'ils veulent guérir définitivement, ils ont tout intérêt à consulter un médecin. Celui-ci identifiera la vraie cause de cette insuffisance dans son organisme et lui donnera le remède approprié. Je crois que Walter, c'est ça la conclusion qu'il faut, si vous le bien, tirer de cette situation.
Henri Lebrondo, merci beaucoup. On va avoir des précisions dans quelques instants avec le professeur Mputu des cliniques universitaires de Kinshasa. Professeur Mputu est gynécologue, endocrinologue. Ah, il s'occupe de ces questions-là à l'intérieur du corps humain. Merci beaucoup, Henri. Je crois que je peux vous dire bonne année parce qu'on ne va pas se retrouver à l'antenne avant l'année prochaine.
Merci Walter, bonne année à toute la famille Okapi.
Merci beaucoup, ciao.
Okapi, Okapi.
Okapi, action 081 89 0 68 90.
Okapi.
Appelez à ce numéro, rentrez dans l'émission en temps réel sur Radio Okapi. Okapi Action. Nous allons creuser ce sujet avec le professeur Mputu. Professeur Mputu, bonjour.
Bonjour, monsieur, bonjour.
Vous êtes gynécologue, endocrinologue. D'abord, une précision, endocrinologue, qu'est-ce que ça veut dire?
Endocrinologue, ça veut dire que je suis spécialisé dans le domaine de l'hormonologie. L'utilisation des hormones, et surtout en rapport avec la gynécologie.
Mmh. Ouais. Voilà, on vient d'apprendre avec notre confrère de Mbandaka qu'il y a une montée en puissance des cas de faiblesse sexuelle masculine. À votre avis, vous qui êtes spécialiste de ces questions, à quoi peut être due une faiblesse sexuelle chez l'homme?
Bon, une faiblesse sexuelle peut avoir plusieurs causes. Il faut distinguer d'abord les causes organiques. C'est-à-dire qu'à la base, il peut avoir une maladie, une affection qu'il faut minutieusement chercher et qui peut être à la base de cette impuissance sexuelle. Parmi ces affections-là, il peut avoir une affection cardiaque, une affection pulmonaire qui peut être à la base de cette impuissance-là. En plus de ça, il y a certains états, certaines habitudes tels que l'alcoolisme peut être à la base de l'impuissance. Donc, il y a d'abord des causes organiques qu'il faut chercher.
Et d'autres causes?
En dehors de ces causes organiques, nous avons des causes fonctionnelles, psychologiques surtout. Des états de déception qui peuvent être à la base de cette impuissance sexuelle. Une déception au cours d'un premier, une première rencontre sexuelle qui a échoué. On en garde un souvenir mauvais de l'acte, alors cela se perpétue, on a un mauvais souvenir, et ça mène à un état de puissance sexuelle.
Mmh. Mais docteur, parce qu'il y a cette tendance à recourir aux praticiens de la médecine traditionnelle, et on en connaît les problèmes de dosage notamment, et puis on en voit des publicités à longueur de journée sur les médias. Dites-nous docteur, comment doit faire un malade qui constate ces faiblesses-là pour qu'il soit soigné? Que doit-il faire?
Je crois qu'un malade qui constate ces faiblesses-là, il doit d'abord s'approcher auprès d'un spécialiste. Comme je vous ai dit, il faut d'abord découvrir une affection organique. Et à son traitement, tout peut rentrer en ordre. Au lieu de commencer à prendre n'importe quoi, parce que le spécialiste fera un certain nombre d'examens pour découvrir une pathologie qui est à la base de cet état-là. Ça, c'est la première approche qu'il faut faire. Nécessairement, se présenter devant un spécialiste pour qu'il fasse un certain nombre d'examens nécessaires pour découvrir une affection qui est à la base de ça. S'il ne découvre pas une affection, alors nous serons dans le domaine de la catégorie des impuissances psychologiques. Là aussi, il y a toute une approche qu'il faut faire pour y arriver au lieu de commencer à apprendre n'importe quoi.
Ouais. Docteur, est-ce que lorsqu'on parle de l'impuissance sexuelle de façon générale, je prends le cas d'une femme, est-ce que le fait qu'une femme ait été violée peut provoquer une impuissance?
Ben, on ne parle pas d'impuissance sexuelle chez la femme. La femme présente d'autres formes de dérèglement sexuel.
Je voudrais parler de la frigidité.
Ah oui, ça c'est une autre forme de troubles sexuels chez la femme. Mm-hmm. Effectivement, ça peut entraîner une frigidité, c'est-à-dire qu'il n'a plus l'absence d'attrait hétérosexuel, n'est-ce pas? Ça peut l'amener à un état de frigidité. Elle ne sent pas le besoin d'attrait de l'autre. Et elle ne trouve pas le plaisir sexuel, hétérosexuel, donc. Mmh. C'est arrivé.
Dernière question, docteur. Que pensez-vous de certaines boissons dont on vante les vertus, si vous voulez, aphrodisiaques, qu'on recommande aux hommes?
Bon, évidemment, actuellement, nous assistons à cette publicité d'une catégorie de drogues. Mais il faut faire attention parce que ces drogues-là, ne sont pas totalement anodines. Il y a des effets secondaires qui existent et puis ça peut vous entraîner à l'accoutumance. Dépendre totalement de ces drogues-là et si vous en passez, vous revenez à la situation primaire. Donc je crois qu'il faut faire attention pour toutes ces drogues-là.
Voilà, docteur Poutou, je rappelle que vous êtes gynécologue endocrinologue. Vous êtes professeur aussi, vous œuvrez aux cliniques universitaires de Kinshasa. Merci beaucoup de nous avoir fourni toutes ces informations ô combien salutaires pour tous nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Lorsqu'on reçoit un visiteur, on l'entoure de tous les égards possibles. Sachant que c'est une femme, un monsieur, un beau-père, une belle-mère, pour ceux qui en ont, disons un hôte de marque. À tout seigneur, tout honneur, il y a tellement d'astuces que l'on risque d'en oublier la bonne au beau moment. Pour vous faciliter la tâche, deux auteurs congolais viennent de réunir une série de pratiques du protocole. Pratiques du protocole, c'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage. On va les recevoir dans ce magazine et ils vous apprendront des choses extraordinaires. Et voilà, nous entrons dans la deuxième tranche de Okapi Action. Nous allons rentrer dans les questions nutritionnelles. En effet, sauvés de la malnutrition, des enfants et leurs mères doivent continuer à se battre pour maintenir une alimentation riche et équilibrée. Après un séjour salutaire au centre nutritionnel, l'ONG Solidarité dote les bénéficiaires d'une armada pour combattre la malnutrition dans leur maison. On en parle avec Fabien Kambinzi qui a suivi un groupe de familles au niveau de Kalemi. Fabien, bonjour.
Bonjour Walter.
Fabien, pouvez-vous nous dire pourquoi l'ONG Solidarité remet aux mamans qui quittent leur centre un kit agricole? Et en passant, si vous pouvez nous donner quelques informations sur les composantes, les éléments, si vous voulez, de ce kit agricole.
Oui, dans tout ça, Walter, personnellement, je n'y trouve qu'une seule raison. C'est de combattre ou de chasser la malnutrition dans la ville de Kalemi et ses environs. C'est pourquoi Solidarité donne aux mamans les brouettes, les bidons vides, les arrosoirs, les râteaux, les houes et les semences.
Qui sont les bénéficiaires de cette opération? Vous avez dit, ils donnent aux mamans. Qui sont ces mamans-là qui bénéficient de l'intervention de l'ONG Solidarité?
Ce ne sont pas toutes les mamans, Walter. Les mamans bénéficiaires de cette assistance sont celles qui étaient internées au centre avec leurs enfants qui souffraient de la malnutrition. Et pour Solidarité, il faut appuyer ces mamans aux travaux des champs. Ceci pour avoir les aliments nécessaires pour la santé de leurs enfants.
Alors, Fabien, nous avons appris que les bénéficiaires de Moulingue, par exemple, c'était plutôt eux des déplacés retournés.
Bien sûr que oui. À Moulingue, ce sont les déplacés retournés qui bénéficient de cette assistance que donne Solidarité. Je suis descendu moi-même sur terrain presque à 25 km au sud de Kalemi, à Moulingue, au champ, pour parler avec les bénéficiaires. On les écoute, Walter.
Ndani ya shamba tunapatikana kama sisi badeplace, tuko hapa, tulielezewa tuje na sisi tujifunze pamoja majifunzo kuhusu habari ya kulima, na badala ya hiyo tulipata vyombo, tulipata majembe, mbeshi, mipanga, marizwara, mbegu, na sisi kwa kuwa tupate namna kisha kulima mashamba zetu na tupande ile mimea. Tulipata majifunzo kwa agronome, na ile majifunzo na sisi tunapenda tuipiganishe kabisa tuweze kupanda mambegu katika mashamba zetu. Tunashukuru sana, sisi tulipata vifaa kama vile mbegu, na tunajua tulikuwa nyuma sana kwa kwanza mashamba nyingi, lakini tunaendelea kwanza kupanda miogo, tunapanda pia mihindi, tunapanda kalanga. Mimi naendelea kushukuru sana kwa sababu msaada ninaopata bunga huwezi kunitosha kwa sababu ni vya muda mchache. Napata kabisa msaada vyombo vile itakuwa vya miaka, na nashukuru sana kwa sababu itanitoshia mafaa katika maisha yangu. Taendelea kufanya kazi ya mlimo kama kikawaida, na ninajua Mungu akinisaidia sherti naweza kupata na mimi faida nyingi kusindia ambapo wale waliopata bunga.
Fabien Kambinzi, bila shaka mfadhili huyu Fabien, Seigneur,
oui.
Je pense que celui qu'on vient d'entendre, c'est un homme, c'est pas une femme qui a parlé en swahili. Est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer en quelques mots ce qu'il a dit?
Oui, Walter, ce sont juste des déplacés retournés du village de la localité de Moulingue. D'après ces retournés, vous savez, il y a eu d'abord l'assistance que donne la Caritas, PAM, donc des farines. Alors, pour eux, ils trouvent que c'est très avantageux de recevoir l'assistance des matériels. Ça va leur permettre de cultiver les champs et puis de reprendre leur vie, c'est ça. Entre-temps, ils ont déjà commencé les champs de manioc, les champs de maïs, mais pour les aliments tels que les haricots, les légumes, c'est pas encore. Ils attendent un moment pour maintenant faire ces agricultures.
Ok, alors Fabien Kambinzi, dites-nous comment s'organise la distribution d'intrants agricoles à l'intention des bénéficiaires.
Oui, Solidarité a ses propres champs appelés parcelles de démonstration. Les mamans bénéficiaires passent là pour une information auprès des agronomes de Solidarité avant d'aller cultiver leurs propres champs. Et en cette période de formation, Walter, elles bénéficient tous les produits de ces champs de Solidarité. Voilà, Walter, l'avantage des bénéficiaires de Solidarité et l'action que mène cette ONG Solidarité ici au Nord Katanga.
Vous avez dit, nous avons dit, tout le temps Solidarité, ONG Solidarité. Fabien Kambinzi, pouvez-vous donner quelques renseignements, quelques informations sur cette ONG Solidarité à l'intention de nos auditeurs?
Oui, Solidarité, Walter, est une ONG française qui est présente en RDC depuis l'an 2000. Sa coordination est basée à Goma. Elle intervient à Ituri, au Nord Kivu et au Katanga. Au Katanga, Walter, Solidarité avait juste des bases à Kongolo et à Kalemi. Celle de Kongolo était fermée depuis le 30 septembre 2004.
Fabien, vous avez dit dans le Nord Katanga, c'est la zone qui vous concerne, c'est de là que nous parlons d'ailleurs avec vous. Quel est le programme de l'ONG Solidarité pour ces deux bases qui sont opérationnelles dans le Nord Katanga?
Le programme de ces deux bases au Nord Katanga, Walter, est la nutrition et la sécurité alimentaire. À Kalemi, plus précisément, elle intervient depuis 2002 pour lutter contre la malnutrition.
Bien, voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une adresse, un numéro de quelqu'un de l'ONG Solidarité, si jamais il y a un auditeur qui est intéressé à entrer en contact avec cette ONG?
Oui, le numéro de quelqu'un de l'ONG Solidarité, nous avons le numéro 081 56 Walter, ça va revenir. Je vais vous faire le numéro pour vous l'envoyer peut-être dans un instant.
Mais oui, tout à fait. On sera en direct avec un invité. Et puis, vous l'enverrez à Jolie ou à Nicole ou à Sylvie qui est là par rapport à ça. Comme ça, on peut communiquer un numéro de téléphone aux auditeurs parce qu'ils sont nombreux qui veulent entrer en contact avec des ONG qui sont opérationnelles sur le terrain. Merci beaucoup, Fabien et Kambinzi. Et je vous souhaite de passer une excellente journée au bord du lac Tanganyika. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année à tous ceux qui me suivent de ce côté-là.
Oui, merci Walter et au revoir.
Au revoir Fabien. Nous sommes dans la réalité quotidienne de la vie comme elle va. Imaginez que vous rencontrez un enfant porté par sa mère sur son buste, un enfant malade qui visiblement est très maigre et qui n'a pas assez de cheveux sur sa tête. C'est parfois des indices qu'il a peut-être les gonflements sur son visage. On dit souvent on peut suspecter une malnutrition chez l'enfant. Mais lorsque cet enfant a la chance d'être accueilli par une agence humanitaire qui l'aide à se tirer d'affaire et à tirer la mère de ce gouffre, qu'après ce traitement thérapeutique, on accompagne la mère avec un kit agricole, on se dit, il y a du beau travail qui se fait. Mais on voudrait chercher à comprendre pourquoi une ONG comme Solidarité donne en plus, au moment, en faveur des enfants évidemment, un kit agricole. Et pour commenter cela, nous avons en ligne, en direct de nos studios de Kalemie, Madame Emmanuelle Zilt. Madame Emmanuelle Zilt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme sécurité alimentaire au sein de l'ONG Solidarité. Vous êtes basée à Kalemie. La question qu'on se pose et ce qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi Solidarité donne un kit agricole au moment dont les enfants ont été frappés par la malnutrition.
D'accord. Alors l'ONG a fait le choix donc de distribuer ce kit agricole dans une double logique. D'abord, les mamans qui sont prises en charge dans les centres de nutrition sont des mamans qui sont confrontées à un problème grave car leur enfant est malade. Donc dans les centres de nutrition, on aide ces mamans à remettre l'enfant en bonne santé par un traitement en fait en alimentant l'enfant. Et le choix qu'on fait de proposer à ces mamans des leçons agricoles et de leur distribuer à la fin ce kit agricole, ça sert en fait à aider ces mamans à régler le problème à plus long terme. C'est-à-dire que l'enfant est malade de la malnutrition et avec le kit agricole, on va donner la possibilité à la maman et à la famille en général de produire eux-mêmes les aliments qui sont utiles à la famille pour éviter que les enfants retombent dans cette situation de malnutrition.
On a entendu que vous remettez des houes, tout l'équipement, voire des semences. C'est des semences de quel type que vous donnez à ces mamans?
Alors, quand les mamans sortent de formation, donc de la parcelle de démonstration, on leur donne des semences maraîchères qui permettent de faire des légumes qui souvent manquent dans l'alimentation de ces familles. Si les mamans se regroupent et donc créent des parcelles collectives, on va pouvoir à nouveau les assister avec donc des semences maraîchères, mais également des semences vivrières, telles que du maïs, du soja, des haricots ou encore des boutures de patates douces ou de manioc, pour réellement les aider à produire plus pour l'ensemble de la famille.
Mmh. Mais il se pose parfois des problèmes, parce que lorsque on a connu un problème de malnutrition, ce qu'on est dans le besoin de se bien nourrir, et que le temps que ça pourra prendre entre le semis et la récolte, il peut se poser des problèmes qu'il est même, malheureusement, certains bénéficiaires qui peuvent consommer les semences qui ont été livrées qu'ils mettent dans leur champ. Est-ce que vous avez rencontré ce type de problème?
Nous sommes naturellement confrontés à ce type de problème, d'où l'intérêt de faire une sensibilisation très importante au niveau des mamans. Et lorsqu'on leur distribue des semences maraîchères, l'avantage sur certaines semences telles que l'amarante, c'est que le cycle de culture est très court. Donc à partir de 3 semaines, on peut avoir les premières récoltes et ça peut permettre en fait aux mamans d'avoir la patience d'attendre les récoltes plus importantes qui viennent après.
Et c'est à peu près combien de personnes qui bénéficient de ce programme de solidarité autour de Calémi?
Le chiffre total depuis le début, je l'ai pas en tête, mais on a environ 600 mamans qui suivent, qui sont en fait dans nos centres de santé tous les mois, et donc on a approximativement 500 familles qui suivent la formation agricole tous les mois et qui sont susceptibles de recevoir donc ces kits agricoles après les leçons qu'elles ont reçues sur les parcelles de démonstration.
Mmh. L'objectif final, on vous l'a entendu le dire ici, c'est que ces mamans puissent être capables par elles-mêmes de régler le problème à long terme, c'est-à-dire, si je comprends bien, d'être totalement autonomes dans l'amélioration de l'alimentation chez leurs enfants. Vous, au niveau de l'ONG Solidarité, à quel moment pouvez-vous être sûr que, tiens, les mamans, ça y est, elles sont prêtes pour affronter par elles-mêmes ce problème?
D'accord. Alors, en fait, quand elles sortent de formation et qu'elles reçoivent le kit agricole, on les laisse pas toutes seules après. Les agronomes qui travaillent sur les parcelles de démonstration font le suivi de ces mamans pendant une période de 3 à 6 mois. Et vont vérifier chez elles si elles ont monté leur jardin et si, dans le cadre de leurs activités agricoles, elles ne rencontrent pas de problème. Ces mamans, lorsqu'elles voient que les agronomes viennent les visiter sur leur parcelle, elles sont motivées et si jamais elles rencontrent un problème technique, elles peuvent poser la question à l'agronome qui peut les aider à régler ce problème et donc à assurer des bonnes récoltes.
Mmh. La première résolution du problème qu'on peut constater éventuellement, c'est que ces mamans ont des plates-bandes d'amarantes, de ceci ou de cela. Si elles sont regroupées, elles ont autant de hectares de soja, par exemple. Mais est-ce que derrière ça, ce besoin, la réponse à ce besoin alimentaire, il y a peut-être la survenance des conséquences heureuses au point de vue économique pour essayer d'obtenir une certaine autonomie financière?
Alors, les semences que l'on distribue sont en premier lieu destinées à l'autosuffisance alimentaire pour la famille. Mmh. Cette autosuffisance alimentaire est importante, certes, mais on a tout à fait conscience qu'une partie des récoltes peut être destiné à la vente pour permettre en effet aux familles de payer autre chose pour le bien-être des enfants et des parents, tels que des vêtements ou les frais de scolarisation. Si les récoltes peuvent permettre de prendre ça en charge, c'est une grande réussite également.
Mmh. L'ONG Solidarité a quadrillé pratiquement trois grandes provinces à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que on peut dire que ONG Solidarité a la maîtrise de la situation nutritionnelle dans cette partie du pays?
Non, je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là. En termes de nutrition, Solidarité agit surtout sur le Nord Katanga et dans la région du Katanga, les besoins sont très importants. Donc l'ONG Solidarité à elle seule ne peut pas prendre en charge l'ensemble des problèmes de malnutrition dans la région, mais au niveau de Calémi arrive à couvrir quand même une zone assez importante.
Mmh. Parce que on va finir, ça va être ma dernière question, Madame Emmanuelle Zilt. La zone dans laquelle vous intervenez dans le cadre de ce programme de sécurité alimentaire, et quelle est la situation actuellement?
Alors actuellement, nous sommes dans une situation où la malnutrition persiste, même si ce n'est plus réellement une malnutrition de crise au moment comme au moment où on l'a découvert, mais les cas de malnutrition persistent en grande partie car les gens n'ont pas encore les moyens de relancer l'agriculture telle qu'elle existait au préalable. C'est pourquoi Solidarité a ce projet donc de sécurité alimentaire qui est directement lié à ces projets de nutrition, mais à également des projets de sécurité alimentaire liés au retour des personnes qui avaient fui leurs champs et leurs villages pendant les conflits et qui désormais rentrent dans ces villages et qui manquent de moyens pour relancer l'agriculture. Donc c'est le second projet de solidarité en sécurité alimentaire, c'est l'assistance aux familles de déplacés qui sont de retour dans leur milieu d'origine.
Voilà, peut-être une dernière information en ce qui vous concerne. Il y a des auditeurs qui parfois veulent entrer en contact avec les experts d'ONG qui interviennent dans le magazine. Est-ce que vous pouvez nous donner un numéro de téléphone, un numéro de contact de l'ONG Solidarité?
Je pense que le plus important pour les personnes, ce serait peut-être de se rendre sur le site internet de Solidarité,
oui.
Sur lequel il y a tous les contacts utiles au niveau du Congo.
C'est lesquels?
Je ne sais pas l'adresse précise, mais je pense que si vous tapez Solidarité avec un S sur un moteur de recherche, vous trouverez rapidement.
On cherchera, on trouvera et on communiquera aux auditeurs qui voudront le savoir.
Voilà.
Madame Emmanuelle Zilt, je rappelle aux auditeurs que vous êtes la responsable du programme sécurité alimentaire au sein de l'ONG Solidarité, basée actuellement à Calémi. Je me permets, avant de nous dire au revoir, de vous souhaiter de passer une excellente fête de nouvel an et que tous vos vœux se réalisent en faveur de vos bénéficiaires.
Merci et très bonne fête à vous également.
Merci beaucoup. Au Capi Action, nous voici enfin arrivés vers le dernier quart d'heure, si vous voulez, du magazine Au Capi Action aujourd'hui. Lorsqu'on reçoit un visiteur au l'entour de tous les égards possibles, selon que c'est une dame, un monsieur, selon que c'est le beau-père pour ceux qui en ont, ou une belle-mère pour ceux qui en ont, disons, lorsque vous recevez un note de marque à tout seigneur, tout honneur, vous le faites souvent. Il y a tellement d'astuces que vous utilisez. Mais malheureusement, il y en a tellement beaucoup que vous risquez d'oublier la bonne astuce au bon moment. Savez-vous, par exemple, comment saluer ou être salué et se présenter lorsqu'on arrive chez quelqu'un qui vous invite? Vous le faites souvent, mais parfois vous oubliez des choses. Savez-vous comment accueillir et bien s'occuper des invités pendant une manifestation quelconque? Un mariage, une prédote, la présentation du fiancé ou...
De la fiancée.
De la fiancée. Marcel, bonjour, parce qu'on vient de vous attendre.
Bonjour Alter.
C'est avec Marcel que nous allons parler de toutes ces questions, parce que autour des règles pratiques qui doivent régir nos relations, aussi bien familiales, publiques, professionnelles que privées, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et pour vous rendre un service... Deux Congolais viennent de réunir une série de pratiques du protocole. Pratiques du protocole. C'est le titre d'un ouvrage qu'ils ont publié tout récemment et qui a été jeté sur le fonds baptismaux il n'y a pas si longtemps. On va les recevoir aujourd'hui dans ce magazine, tous les deux. Mais Marcel, avec vous, l'ouvrage a été présenté officiellement le 23 décembre dernier, deux jours avant Noël. C'était à la paroisse Notre-Dame de Fatima. C'était sous le patronage de l'Union des écrivains congolais, UECO en sigle. Marcel, qu'est-ce que on peut retenir comme importance d'un ouvrage qui traite de ces questions?
Alors, beaucoup de personnes ne connaissent pas souvent les règles pratiques auxquelles toute personne est tenue pour faire bonne figure dans les relations entre les personnes humaines. Il y a par exemple un mari qui est tenu en se réveillant de saluer toujours le premier sa femme. Et ça c'est important, beaucoup de maris ne le font pas ou l'ignorent. Il y a aussi par exemple Walter, le cas du téléphone portable, il est malséant de biper indéfiniment une personne quand bien même on est très proche et surtout quand c'est l'appelant qui a plus besoin de ce correspondant.
Bipinga. Bipinga, ça se dit souvent. Au propre, comme on figurait d'ailleurs. Mais revenons au premier terme, même si quelques-uns sont en train de le faire maintenant, je ne sais pas. Cela devient en effet, au bout du compte, un véritable dérangement lorsque on cherche à biper, authentiquement appeler d'une cabine ou utiliser simplement les dernières unités disponibles ou envoyer un SMS, Marcel.
C'est donc, Walter, autant de règles de bonne manière qui constituent l'essentiel de cet ouvrage écrit par M. Tendobi, Alemba et Ilunga Mbubula. Et c'est une véritable innovation dans les genres, selon un monsieur que nous avons rencontré sur place, qui s'appelle Emmanuel Nyaruleka, qui est fonctionnaire à la Banque Centrale et assistant à l'Université Chrétienne Cardinal Malula. On l'écoute.
Je suis très heureux, en fait, c'est mon jour aujourd'hui, de voir cette œuvre à la confection, à l'élaboration de laquelle j'ai participé, connaître un tel couronnement aujourd'hui. Je crois que ça sont des notions que nos compatriotes devront en principe intérioriser de plus en plus, parce que, vous savez, nous avons des comportements parfois qui vont à l'encontre des usages, des bons usages, et j'estime que cet ouvrage, en ce qu'il parle des étiquettes d'accueil et de protocole, de règles bien séances. C'est un ouvrage qui devrait en fait inspirer tous les compatriotes pour qu'on puisse aller vers un changement positif de mentalité, de façon de vivre.
Vous estimez qu'il tombe vraiment point nommé?
Ah, bien sûr, parce que vous savez, j'ai l'impression même que c'est une œuvre de pionnier pour ce qui concerne notre pays. J'ai pu vérifier dans la bibliographie disponible, je trouve rarement des ouvrages de ce genre. En fait, c'est une œuvre de pionnier.
Voilà, selon M. Emmanuel, il pense que c'est cette œuvre, la pratique du protocole, œuvre de Tendobi Alemba, Louis Corneille, Ilunga Mbumbula, François Xavier, c'est une œuvre de pionnier. On peut dire que ce livre permet de bien s'imprégner des notions essentielles de courtoisie, de bienséance. Mais faudra-t-il encore, Marcel, que les personnes qui auront à le lire s'attellent à appliquer toutes ces règles et pourquoi pas les transmettre à leur entourage, Marcel?
C'est tout ce que l'on peut souhaiter, Walter, car cela permettra à chacun de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est grossier et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et même les églises ont un rôle à jouer pour la vulgarisation de toutes ces règles, pratiques de courtoisie et de bienséance. Suivons plutôt M. Jean-Marie Lufika, qui est pasteur au centre évangélique La Borne et directeur de la radio Parole Éternelle.
Au départ, un ouvrage qui surprend dans la mesure où beaucoup de gens aujourd'hui pensent à bien des sujets qu'au sujet du protocole, qui est pourtant un sujet essentiel dans notre société. Nous vivons au contact les uns avec les autres. Nous avons besoin d'apprendre aux gens et d'apprendre nous-mêmes comment nous devons vivre, n'est-ce pas? Dans une société de tensions, de rapports pas toujours bons, n'est-ce pas? On a besoin quelque part qu'il y ait un vademecum, si on peut dire, n'est-ce pas? Qui puisse permettre à la population d'avoir sous la main quelque chose qui puisse l'instruire, une référence, voilà. On l'a dit tout à l'heure, nous avons toutes sortes de cultures, nous sommes pratiquement une grande salade, n'est-ce pas? Mais nous avons là quelque chose qui permet quand même que nous puissions avoir une idée unique qu'on peut se faire, n'est-ce pas, sur la manière dont on doit vivre et la manière dont les sujets ont été abordés, pratiquement de manière pratique, dans les différents aspects de la vie de la société, et ça c'est formidable. Et nous ne pouvons que jeter des fleurs à nos amis Ilunga et Tendobi qui ont écrit ce livre dans un style très simple aussi et très pratique. Et ça, on est content. Je dis pas seulement pour la société, mais pour l'Église. En tant qu'homme d'Église, nous disons qu'il faut nécessairement que dans nos Églises, nous nous occupions pas seulement de la prédication, mais aussi de la manière dont les chrétiens doivent vivre dans la société. Et ça, c'est une chose essentielle.
Et voilà, M. Jean-Marie Lufika pense qu'il est indispensable, en plus de la parole des dieux, sous-entendu, d'inculquer les règles de bonne conduite aux chrétiens. Mais Marcel, parce que vous étiez dans la salle pendant la présentation officielle du livre, qu'est-ce que vous en pensez, parce que vous l'avez lu aussi ce livre?
Walter, en effet, j'ai eu à le parcourir, j'ai personnellement aimé à... La partie sur la courtoisie, parce que Walter, bien souvent, on ne sait pas...
Le chapitre 2.
Exactement. Bien souvent, on ne sait pas s'adresser de manière qu'il faut à des personnes qu'on a en face. C'est les chapitres qui m'a le plus accroché.
Oh, ok. On va revenir à votre témoignage un peu plus tard, Marcel. Mais lorsque le pasteur Jean-Marie parle d'inculquer les règles de bonne conduite aux chrétiens, que pensez-vous également aussi de tous ces lieux ou établissements publics où les conditions d'accueil par le personnel laissent à désirer? Vous arrivez bien officiellement, mais bon, déjà à l'accueil, ça vous donne envie de repartir. Hein.
Bah, tiens, cela tombe vraiment à propos, car parmi le participants à cette cérémonie de la présentation de cet ouvrage, nous avons rencontré un monsieur qui travaille à l'hôpital général de Kinshasa. Je vous propose de suivre monsieur Denis Nzao.
Dans la vie, le protocole vaut son pesant d'or pour réglementer les usages, les relations, parce que il y a des gens qui ignorent pas mal de choses et ça amène toujours de conflits, beaucoup de désagréments. Et je crois que c'est important et un livre, nous ne pouvons que féliciter et encourager les auteurs.
Vous êtes de l'hôpital général de Kinshasa qui est souvent décrié en matière d'accueil de malades. Et qu'est-ce que vous pensez en rapport avec cet ouvrage?
C'est pas seulement en rapport avec cet ouvrage, mais tout le monde s'appelait à toujours parfaire dans ce qu'il est en train de faire. Et je crois qu'au niveau de l'hôpital, on s'attelle toujours à innover, à faire mieux. Et donc, nous pensons qu'il y a l'imperfection partout et nul n'est parfait. Mais le souci du comité de gestion ainsi que de tout le monde, c'est de mieux faire. Déjà, le président du comité de gestion a ordonné qu'on puisse acheter 3, et je crois que on a vraiment besoin de ça, tout le monde a besoin de ça.
Et bien voilà, c'est déjà bien que le comité de gestion de l'hôpital général pense à commander ce livre. Marcel, merci beaucoup. On va recevoir dans quelques instants nos invités parce qu'il ne reste plus assez de temps et le temps pour nous de décortiquer quelques merveilles dans ce précieux recueil.
Merci Mathieu et au revoir.
Merci. Voilà, très rapidement, j'ai le plaisir de recevoir en studio pour la première fois dans ce magazine Monsieur Ilunga Bumbula, François Xavier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes aviateur civil, mais aussi écrivain. La preuve, j'ai un ouvrage dans mes mains. Et puis, Monsieur Tendombi Alemba, qui est lui enseignant. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Merci d'être à Radio Okapi. Bon, ça ne surprend pas que vous ayez écrit. Mais bon, l'aviateur civil, ça surprend quand même. Mais ce précieux recueil, j'ai dit précieux parce que il sort un peu de l'ordinaire. Je tiens pour preuve les différentes réactions qui ont été enregistrées à la sortie de sa présentation officielle. La question que je vous pose, je vais commencer par Monsieur Ilunga. Pourquoi avoir pensé à écrire la pratique du protocole?
D'abord, merci à la Radio Okapi, à vous-même. Vous avez démontré ici, avant d'arriver, avant que je vous réponde,
oui.
Vous venez de faire une démonstration. Nous avons traversé les seuils de la sécurité avant d'arriver à votre seuil de la radio.
Oui.
Et une dame est venue, c'est les journalistes, elle est venue nous accueillir,
oui,
avec joie pour nous faire franchir jusqu'à votre studio.
Oui.
Nous sommes très ravis, nous avons compris, nous n'avons pas fait un travail pour rien. Ça, c'est la première chose.
Oui.
Pour revenir à votre question,
oui,
nous avons observé dans nos milieux, les milieux divers, que ce soit dans nos propres maisons, dans nos lieux de travail, dans les églises où nous prions, partout où nous avons été, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de frustrations. Frustration par la manière même d'accueillir les gens. Frustration par la manière même de faire asseoir quelqu'un. Frustration par la manière même de manger avec quelqu'un à table. Frustration de tous les temps. Vous arrivez, on vous salue, on vous serre la main par quelqu'un, sans même vous dire bonjour. Un enfant vient, il vous serre la main, sans vous dire bonjour. Alors, nous avons dit, mais c'est, nous allons aller où? Avec les antivaleurs qui sont venus de la guerre, des guerres, de la dictature, et puis des guerres. Si on ne fait pas attention, nous allons sortir de cette bruit pour arriver maintenant à la Troisième République avec les antivaleurs, et ça ne sera pas bien. Faisons quelque chose. Au lieu de rester dans l'état de critiquer ou de conseiller oralement, faisons une documentation qui restera pour notre postérité.
Mm-hmm.
C'est ça que nous avons fait avec mon ami Tendombi Alemba,
alors,
qui est présent.
Voilà, papa Tendombi Alemba, excusez-moi, j'ai dit papa.
J'allais
dire, je vous appelais papa, je devrais dire
c'est
monsieur.
Exact.
Voilà, tout seigneur, tout honneur.
Oui,
mais alors, finalement, vous êtes licencié en sciences économiques, comme monsieur Tendombi Alemba,
oui,
de l'Uranium, en 1973, déjà à l'époque, et tout. C'est déjà une bonne chose, mais qu'est-ce que vous avez apporté de particulier dans cet ouvrage?
Bon, mon cher confrère Ilunga et moi, nous avons tous deux
eu la même préoccupation. Mm-hmm. Donc, le constat est parti de l'observation. Mm-hmm. Nous avons observé effectivement dans nos milieux que quelque chose n'allait pas. Alors, pour l'élaboration de cet ouvrage, nous avons mis ensemble nos potentialités. Mm-hmm. Il y a l'un, mon confrère, qui avait un peu plus de connaissances, en plus des connaissances d'État que nous avons tous. Lui, pour avoir travaillé dans l'aviation, il avait travaillé dans un secteur où il y avait un peu l'accueil.
Disons que Yoga Bouloula est ancien chef de base à Air Zaïre, directeur des exploitations de Fauchi Aviation Service, ancien inspecteur de personnel à la Carigresse. Sa vie professionnelle a été marquée par la pratique du protocole dans de nombreuses occasions, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur de la RDC.
Effectivement. Alors, une œuvre de collaboration comme celle-ci, c'est une œuvre qui nécessite la conjugaison des possibilités, des moyens et des connaissances. Mm-hmm. C'est ainsi que, partant de ces connaissances et partant de mon expertise, de par ma formation de base, nous avons pu mettre, puisque si vous voyez bien, c'est un document qui est rédigé pratiquement comme un ouvrage scientifique. Mm-hmm. Vous voyez, c'est un ouvrage qui est accessible à tout le monde, qui pourra être exploité par les milieux étudiantins, par les milieux scientifiques.
J'ajoute quand même quelques illustrations, d'images, des fiches, des formats.
Effectivement. Alors, en tant qu'enseignant, mm-hmm. il était normal que nous puissions habiller cet ouvrage, lui donner les chances d'être exploité par tous les milieux, mm-hmm. qu'il s'agisse du grand public comme du public scientifique étudiantin.
Mais vous allez jusqu'à parler des choses privées, des réceptions privées en famille, la disposition d'une table. Je veux dire aux auditeurs, autant que j'en ai fait pour M. Ilunga, mm-hmm. Dire aux auditeurs que vous, M. Tendoumbi, vous êtes fonctionnaire à la Banque Centrale du Congo de 1975 déjà à 2004. Il y en avait qui venaient seulement de naître, d'autres n'étaient pas nés, qui nous écoutent maintenant. Oui. Vous avez été conseiller au bureau du Premier ministre de 1978 à 1979 et donc vous êtes autodidacte en technique d'accueil.
Effectivement.
Mais c'est quoi les techniques d'accueil?
L'accueil, nous avons expliqué dans notre ouvrage que chaque personne se livre quotidiennement aux activités protocolaires. Donc, qui dit protocole dit accueil. Mm-hmm. Alors, jusqu'à présent, les gens pensaient que n'est protocolaire que celui qui travaille dans une entreprise.
Ou celui qui n'a pas réussi les diplômes, alors, parce qu'il n'y a pas de travail, on le met au protocole pour recevoir les gens.
Effectivement. Alors, nous avons ramassé ce travail, cette notion sous deux aspects. Mm-hmm. Il y a un aspect qui englobe toute la communauté, donc tout le monde, le grand public. Mm-hmm. Hein, là, nous parlons de l'accueil à domicile, puisque chacun de nous accueille à domicile, organise des manifestations.
On est pendant les fêtes déjà.
Pendant les fêtes, effectivement. Mm-hmm. Et une autre dimension, c'est au niveau des entreprises où celui qui ne peut pas faire le protocole pour lui-même, compte tenu de ses responsabilités, il s'est fait associer de quelqu'un d'autre qui est agent du protocole. Mm-hmm. C'est ça, ce sont ces deux dimensions-là que nous avons voulu faire remarquer. C'est ainsi que vous verrez des aspects qui concernent l'accueil à domicile, tout comme des aspects qui quittent le cap du domicile pour atteindre le niveau des églises, le niveau des entreprises.
C'est un outil, un vin de main comme on pourrait dire. Monsieur Ilunga, si on voit la première partie qui concerne le protocole, il y a quelque part la section 2, je note, le langage protocolaire. Vous voulez nous dire qu'il y a un langage approprié au protocole?
Exactement. Il y a trois sortes de langage.
Si vous vous rapprochez du micro.
Il y a trois sortes de langage. Ouais. Il y a un langage avec tactique.
Oui.
Il y a un langage avec courtoisie, mm-hmm. et un langage avec diplomatie.
Voilà.
Et quand vous faites un travail de protocole, vous êtes obligé de recevoir les gens de divers milieux, mm-hmm. de divers niveaux. Alors, ces gens-là demandent une certaine respectabilité. Mm-hmm. Ces gens demandent une certaine considération. Vous n'allez pas parler à un élève de la même façon que vous parlez à un professeur. Vous n'allez pas parler à un fonctionnaire comme vous parlez à un PDG.
Ou à mon beau-frère.
Ou à mon beau-frère.
Je veux parler à ma belle-mère.
Non, il y a un langage approprié. Quand je vous dis, par exemple, permettez-moi que je vous dise que je ne pouvais pas arriver chez vous puisque
le rendez-vous n'a pas été fait. Mais quand je vous l'ai dit brutalement, je ne pouvais pas venir chez vous. Vous sentez que c'est bon.
Dans le ton déjà.
Dans les tons, dans les genres. Alors vous voyez que ça ne va pas. Mmh. Alors quand je vous dis maintenant, en venant ici, vous nous dites, prenez place s'il vous plaît.
Ouais.
Vous nous dites, prenez place s'il vous plaît. Ouais. Donc, voilà comment vous nous avez dit. Vous avez dit, alors, vous êtes des gens dans le studio, prenez place. Non. Vous dites, prenez place s'il vous plaît. Et directement, vous avez arrangé, vous avez fait un décor magnifique, et nous sommes là.
Merci.
C'est ça le langage. C'est ça le langage. Quand nous disons, vous voyez chaque fois quand vous êtes au tribunal, on dit à votre honneur, monsieur le juge président, l'avocat qui dit à votre honneur, il rend la respectabilité à ses juges. Et le juge se sent à l'aise. Il est dans le trône de pouvoir de dire les droits. Alors cet homme, on ne peut pas lui parler n'importe comment. Donc quand vous arrivez chez quelqu'un, chez lui, sachez que vous lui devez un respect. Et en rapport avec le respect, il y a quoi dire? Selon la catégorisation des gens, nous savons que dans la loi, on dit que tout le monde est égaux devant la loi.
Oui.
Mais en protocole, les gens sont hiérarchisés.
La notion de préséance,
oblige de dire son éminence. Oui, son éminence cardinal. On vous oblige à dire, excellence, monsieur le ministre. Oblige. Nous n'en pouvons rien.
Voilà.
C'est la vie.
Alors, c'est cet ouvrage de 234 pages, suffisamment illustré, en deux parties, le protocole et l'autre partie, c'est les bons usages. Les gens meurent d'envie de l'avoir. C'est d'ailleurs la question qui vient de nous arriver de Mbujimayi, parce que Radio Okapi est capté partout là, aussi dans toute la RDC, dans le monde entier. Maintenant, on est sur Internet en direct, en situation réelle. Et cette question, peut-être quelqu'un d'autre l'aurait posée. Où pouvons-nous trouver cet ouvrage? C'est Jean-Marie Nziba qui a posé la question de Mbujimayi.
Bon, nous nous sommes dit ceci. En fait, c'est une coïncidence heureuse, puisque en venant en route, nous nous sommes effectivement posé cette question. Nous nous sommes dit, mais si on nous posait la question de savoir où on peut, les gens de l'intérieur peuvent se procurer cet ouvrage, qu'est-ce que nous allons dire? Alors nous nous sommes dit que bon, voilà, puisque maintenant nous avons arrêté des structures pour la commercialisation de cet ouvrage à travers les structures religieuses. Donc je crois qu'à l'intérieur, nous allons...
Dans les diocèses,
c'est cela. Donc je crois que les gens de l'intérieur, si les responsables des églises, toutes les églises, nous disons, toutes les églises peuvent en fait prendre contact avec leurs responsables respectifs pour... essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent entrer en contact avec les diocèses de Kinshasa. Nous sommes tous deux chrétiens catholiques de la paroisse de la Résurrection.
Juste une question d'un auditeur, elle est importante, nous on ne peut pas y répondre. C'est Robert Mbaki qui nous appelle de Kinshasa. Pouvez-vous faire un commentaire en une minute s'il vous plaît? Ou vos impressions sur le protocole d'État? Est-ce qu'il s'exerce selon l'esprit de cet ouvrage?
Nous avons dit que nous ne traitons pas les problèmes des protocoles d'État. Normalement, les protocoles d'État, c'est fait au niveau des affaires étrangères. Ça, c'est comme ça dans le monde entier. Si dans notre pays, ça se fait, l'hierarchie se fait au niveau de la présidence, ce n'est pas notre affaire. Mais les protocoles d'État doivent se faire au niveau des affaires étrangères. Un point, un trait.
Et puis, nous avons précisé que notre ouvrage est essentiellement axé sur le protocole d'étiquette. C'est-à-dire que le protocole des cérémonies, des manifestations, au niveau des structures de base, la famille, la société, les entreprises.
Okapi.